Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Par les temps qui courent, c'est tous les soirs une heure de conversation avec les artistes, ce soir avec Neil Yalter.
Un tango, une danse, un baiser.
Ça y est,
puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux et Neil Yalter.
Si j'étais à Istanbul maintenant, y songerais-je seulement. Mais loin d'Istanbul, je me languis de tout, même du parloir de la prison d'Ouskoudar. Je suis entrée à Sofia par un jour de printemps, ma douce. La ville où tu es née fleure le parfum du tilleul. Il a été incroyable l'accueil de tes concitoyens. La ville où tu es née est pour moi une maison fraternelle aujourd'hui. Mais on n'oublie pas sa propre maison, même chez son frère. C'est un dur métier que l'exil, bien dur. Varna, 24 mai 1957. Il s'agit de la toute fin du poème Sofia, écrit par l'écrivain turc Nazım Hikmet. Une de vos œuvres majeures, Neil Yalter, en emprunte le dernier titre, peint en rouge sur des photos en noir et blanc. C'est un dur métier que l'exil. Et c'est aussi comme cela que nous sommes accueillis dans la première exposition monographique, grande exposition consacrée à votre travail. Elle a ouvert au Magval de Vitry-sur-Seine et elle peut se voir jusqu'au 9 février 2020. Elle s'appelle Transhumance. Elle donne aussi lieu à un catalogue, notamment avec des textes de Fabienne Dumont. Bonsoir à vous, Neil Yalter.
Bonsoir Marie. Ce n'est pas ma première rétrospective, mais ma première rétrospective en France. J'en ai eu une plus petite à Metz, Frac-Lorraine. Mais on peut dire que celui-ci est important parce que l'espace est magnifique. L'équipe et le musée de Macval est un lieu admirable. L'équipe a travaillé admirablement bien. Je crois qu'on a fait une exposition qui nous satisfait, nous, du moins. J'espère que le public va suivre aussi.
C'est déjà un bon début, quand même, d'être satisfaite.
Ah, moi, je suis enchantée. Je suis très, très contente. Oui.
Donc, deuxième rétrospective en France et première grande rétrospective française, Neil Yalter. Alors, j'ai commencé par un poème parce que j'avais très envie, moi, en me promenant dans cette grande exposition, de vous entendre parler des mots, des textes et de la poésie. Peut-être d'une part parce qu'on est accueilli comme ça par un vers de poème en rouge. Donc, c'est un accueil littéraire, fort et puissant. Je voulais savoir quelles relations vous entretenez aujourd'hui et vous avez toujours entretenu avec la poésie, Neil Yalter.
Je dois dire que j'utilise la poésie plutôt dans mon travail. Quand le sujet colle avec ce poème-là. Mais en dehors de cela, je ne lis pas la poésie sans arrêt. Bon, évidemment, pour pouvoir trouver les poèmes qui m'intéressent, j'ai lu beaucoup de poésie. Mais Nazım Hikmet, pour nous les Turcs, c'est quelque chose de très spécial. C'est plus qu'une poète. C'est plus qu'un poète, c'est plus que de la poésie. Donc cette pièce, ce mur d'affichage avec ce texte en rouge, c'est une dure métier que l'exil. En fait, je fais ce travail dans les rues. Chaque fois qu'une institution me demande de faire une exposition, que ce soit un musée ou une galerie ou un espace d'art contemporain, s'ils sont intéressés, en fait, on fait ces affichages sauvages, illégaux, dans les rues de cette ville. Et c'est écrit dans toutes les langues des populations qui se trouvent dans ces villes. Et je suis à ma 8e ville. Et à la fin, je vais faire probablement un livre rassemblant toutes ces images dans les rues. C'est pendant l'affichage, les photos, et ensuite la réaction du quartier ou des rues par rapport à ces affiches. Il y a des villes comme Vienne, il y a eu ils ont déchiré les affiches en disant on veut pas d'images d'immigrés, des phrases sur l'immigration. Il y a eu comme à Mumbai, à Bombay en Inde, ils ont protégé presque ces murs. Donc c'est très intéressant, voilà. Ils vont faire ça aussi à Makwal pendant 4 mois.
Parce qu'il faut dire que par ailleurs, vous produisez des images d'archives de cette même installation où on vous voit, ce sont des images qui sont notamment disponibles sur votre site internet, encollées avec l'aide de votre équipe, ces images en noir et blanc, à même le mur directement, comme peuvent l'être des affiches politiques ou des affiches publicitaires. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'une action sur la ville qui est très forte. Est-ce que vous pouvez dire 2-3 mots de Nazim Hikmet, pour ceux qui ne le connaissent pas? Et dire pourquoi est-ce que pour vous, c'est quelque chose de spécial, dites-vous, qui dépasse la poésie?
On aime beaucoup Nazım Hikmet, nous, les artistes, les intellectuels, surtout de ma génération. Mais c'est surtout ses poèmes sur l'exil qui m'intéressent. Et je n'ai pas utilisé que Nazım Hikmet dans ce travail. Il y a des poèmes anonymes des femmes kurdes de Turquie. Il y a un admirable recueil de ces poèmes-là, édité et réuni ensemble par Chayan, l'historien et géographe. Il est arménien d'origine. Et j'ai utilisé ces poèmes anonymes des femmes aussi. L'image de la pomme qu'on trouve dans les vidéos ou dans les dessins ou dans les photos et dans les poèmes surtout. C'est l'image du bien-aimé qu'on a laissé derrière, qu'on est parti en exil. Parce qu'il y a des exils, il n'y a pas seulement l'exil actuel ou l'exil il y a 50 ans. Il y a des exils. L'exil, pendant l'Empire ottoman, en Anatolie, c'était surtout des bardes et des poètes qui ont été poursuivis par l'Empire et qui s'exilaient d'une ville à un village ou d'une ville à une autre ville. Pour pouvoir continuer à vivre. Alors, ces poètes-là, ces poèmes anonymes des bardes, ont toujours cette image de la pomme, cette bien-aimée qu'on a laissée derrière. Alors, la femme écrit, la femme poète anonyme, quand tu vas aller entre Belle et Douce, dans d'autres pays, dans d'autres lieux, sors-moi de ta poche, la pomme, et pense à moi. Par moment, je crois que des images similaires, on le trouve dans la poésie de Nazım Hikmet. Il utilise à la fois ces poèmes populaires de 16e siècle, des bardes, des troubadours, et à la fois sa poésie moderne de l'époque. Et pourquoi j'ai utilisé ces poèmes? On les trouve dans les vidéos aussi, les travailleurs clandestins de rue Saint-Denis en 83.
C'est pour ça que je dis, en fait, moi j'ai l'impression que les textes sont partout, bien sûr.
L'instrument, et ils chantent ces poèmes. Tous ces gens-là connaissent ces poèmes. C'est de la grande culture. C'est de la culture populaire, de la grande culture. Et ils connaissent ces poèmes. Ils connaissent cela et les motifs des tapis. Donc je suis partie par des motifs de tapis anatoliennes pour les formes, et j'ai utilisé ces poèmes-là parce qu'ils sont dans les chansons des travailleurs qui chantent pour moi, enfin pour la caméra, pour la vidéo, pour l'art, pour ce qu'on a fait.
Voilà. J'ai dit qu'on était accueillis donc par cette grande fresque murale avec des images en noir et blanc et puis cet indur métier que l'exil en rouge. Mais on est aussi accueillis par un texte et par une sorte d'autoportrait que vous faites de vous en 1992. Ah oui. On va écouter le son.
I am an artist.
Je suis une artiste.
I am a Muslim from Bosnia-Herzegovine. I am a Jew from Salonika.
Je suis une juive de Salonique, une musulmane de Bosnie.
I am a Circassian from Russia.
Une circassienne de Russie.
I am an
Abaza. Abaza.
I
Je
am
suis
a
une femme.
Janissaire. A Greek Orthodox.
Une grecque orthodoxe.
I come from Turkey. I am from France.
Je viens de Turquie. Je suis de France. Je viens de Byzance.
From Byzantium.
Et de l'Asie mineure.
I am from Asia Minor. I am a Mongol, a nomad, an immigrant
Je
worker.
Je suis une immigrée, une nomade, une mongole.
Exile.
Exilée.
I
Je
am
suis
the message.
Le message.
I am.
Ceci est un manifeste.
Un manifeste de quoi, Nili Alter?
Mais je suis tout cela, comme la plupart des Turcs. Je suppose dans beaucoup de pays actuellement. Enfin, c'est la base de la mixité, des mélanges. Cet empire ottoman de 7 siècles où il y a eu tous ces peuples, toutes ces civilisations qui ont passé, qui sont restées. Donc, je suis tout cela. Je n'invente rien dans cette manifeste.
Et vous êtes aussi le message. La manière dont se termine absolument. Ce manifeste, oui. C'est I am the message. Et c'est aussi une sorte de pied de nez après l'énumération de toutes les identités possibles. Et on n'imagine d'ailleurs pas fini. On imagine que vous êtes encore plein d'autres choses, Nili Alter. Mais que vous êtes aussi le message. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette dernière phrase?
Écoutez, ce travail qui est une minute de vidéo, pas une seconde de plus, pas une seconde de moins, était pour une exposition qui s'appelait Trans Voices, qui ont été faites dans cette année-là entre les États-Unis, entre New York et Paris. C'était un projet extraordinaire. Qui n'a pas été très bien comprise en France. C'est-à-dire qu'on a demandé à 6 vidéastes français et à 6 vidéastes américaines de faire une minute de vidéo en tant que message sur les problématiques de leur pays et envoyer ce message, les 6 américaines à Paris, les 6 françaises à New York. Alors, ils ont été diffusés sur les radios, sur les télévisions, comme des clips, sur Canal+ et sur MTV New York. Et il n'y avait pas de programmation. Ils le mettaient de temps en temps, comme ça, tac, tac, tac. Et puis, en plus, il y a eu 6 autres artistes de 2 côtés qui ont fait des affiches pour le métro new-yorkais et pour le métro français, parisien. Mais... À un moment donné, on a montré tout ça au Centre Pompidou. Et l'instigateur du projet était le Centre américain et le Whitney Museum à New York. Et ils ont montré ça aussi à Whitney Museum. Mais ce n'était pas quelque chose à voir dans un musée. Ça se baladait dans les airs, la radio. Ça se baladait sur la télévision et dans les métros. Donc... je trouve que c'était un projet fabuleux, mais la presse française à l'époque a dit « Mais pourquoi on ne le voit pas tous ensemble dans un beau musée, espace, qu'on puisse voir, et puis il ne faut pas aller chercher dans le métro et écouter la radio ?» Mais c'était...
Alors que vous vouliez que ça circule, en fait.
Ah bah oui, c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une manifeste.
Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le titre
La minute et le message, c'était en fait les Trans Voices, c'était le titre, la base, l'indication qu'on nous a donnée. Vous envoyez une minute de vidéo qui soit un message.
Vous avez choisi Trans Humans pour le titre de cette grande exposition qui est consacrée à votre travail, Nili Alter. Là encore, il est question de mouvement, il est question de circulation, mais c'est un mot très ample. Transhumance, c'est, on désigne, peut-être pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, non pas l'exil, mais les exils. Qu'est-ce qu'il raconte pour vous, ce mot-là, transhumance?
Et parce que cette année 2019, j'ai eu en fait 3 rétrospectives. Une à Cologne, Muséum Ludwig. Actuellement, il y a encore une à New York, Hessel Museum et Macval. Les 3 sont assez différents les uns des autres, mais Cologne et New York ont travaillé ensemble. Et donc, on a eu un grand moment de travail intense à Macval, et difficile. Et qu'est-ce qui va venir d'où? Donc, en fait, ces pièces, ces œuvres ont transhumé d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. Et on avait une inquiétude comme ça. Est-ce qu'ils vont arriver à temps? Est-ce qu'ils vont pouvoir nous prêter? Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui viennent des collections, des musées ou des collections privées. Alors, par moment, on nous répondait pas à temps. Et on savait pas. Alors, les 2 curateurs étaient embêtés parce que 2 mois avant l'expo, ils savaient pas encore qu'est-ce qu'ils allaient avoir à montrer. Donc, je me suis dit vraiment, ces travaux, ces œuvres qui datent de 40, 50 ans, 30 ans, 40, 50 ans, ils transhument en ce moment, déjà.
Ce qui est beau, parce que ça parle aussi d'une des lignes de force de ce qui vous intéresse, Nili Alter, depuis longtemps. Peut-être est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de vos propres mouvements, de vos propres transhumances. Alors, vous avez parlé de la Turquie, vous êtes né au Caire, et puis il y a la France quand même.
Un an et demi en Inde,
oui.
En 57 à 59. Donc, je suis en mouvement, en effet. J'ai eu une certaine vie de transhumance moi-même, volontaire. Hein, volontaire, attention, ce n'est pas du tout de l'immigration forcée. C'est une transhumance. Vraiment transhumance. J'avais aussi ça en tête en choisissant le titre. Et aussi, j'ai transhumé d'un atelier à l'autre avec tous ces travaux-là. Et quand je regarde, j'ai eu des moments de vide dans ma vie en France, de non-travail, de non-acceptation.
Ce qui n'est pas pareil, non-acceptation et non-travail. Il y a des moments où vous n'avez pas travaillé.
Non, j'ai toujours travaillé. Ouais. J'ai toujours montré mon travail. Dans des maisons des jeunes, dans des maisons de culture, dans des lieux tout à fait non culturels. Donc ça me gêne absolument pas. Mais au début, j'ai commencé fort, mais après, dès que j'ai commencé à travailler sur l'immigration, sur des sujets sociopolitiques, du moins en France, ça plaisait pas aux musées, aux galeries, aux gens qui faisaient la culture. Voilà, il faut le dire. Hein. C'est maintenant que les gens sont intéressés. Je faisais beaucoup de choses en Allemagne parce que les mentalités sont différentes. Mais donc, j'ai changé beaucoup de lieux, beaucoup de fois des petits ateliers. Et à chaque fois, je suis étonnée comment j'ai pu garder intact tout ce travail-là. Parce que moi, je les mettais dans un coin, je les oubliais. Hein. Donc, ces travaux ont transhumé aussi d'un lieu à l'autre, d'une institution à l'autre. Par exemple, les vidéos dont vous avez parlé tout à l'heure de ce garçon syndicaliste, tout ce qu'il souffre, tout ce qui lui est arrivé. Mais ce vidéo, j'avais même oublié que je l'avais fait.
Donc, parce c'est un film en noir et blanc, un homme parle en gros plan.
C'est le début de la vidéo, l'art vidéo. C'est un porte-à-pack. C'est un portable, c'est en noir et blanc, plutôt en gris et gris. Et j'avais fait 50 heures de vidéo. Et après, ce média est devenu, a évolué, c'est devenu Lumatic, et ensuite Betacam, maintenant le digital. Donc, il y a la Bibliothèque nationale, BNF, Bibliothèque nationale de France, qui ont sauvé toutes ces vidéos. Sinon, j'aurais pas pu vous le montrer aujourd'hui.
Vous parlez de transhumer d'un atelier
aussi,
à un autre, évidemment, et toutes ces œuvres qui bougent, Neil Yalter. Je voudrais qu'on écoute la voix de Suzanne Paget, qui a été une femme sur votre parcours de transhumance. Ici, en 1980, elle parle justement de ces différents espaces, le public, l'atelier, le musée.
Il y a un aspect assez particulier, alors, qui tient à la formule même de l'art, qui est, j'allais dire, une recherche de type muséologique. C'est la façon dont on passe de l'atelier au musée. C'est pas tout à fait évident. C'est-à-dire, il y a un triangle entre l'atelier, le public et le musée. Et il faut que ce triangle se réalise, se visualise au musée selon des formes qui obligent à forcer la structure traditionnelle d'un musée, qui est par définition plutôt un lieu de contemplation et de conservation, et qui doit donc trouver un mode visuel de transcription d'une dynamique qui, par définition, dérange l'ordre habituel du musée.
Culture, par les temps qui courent. Marie Richeux et Neil Yalter.
Vous l'avez reconnu, la voix de Suzanne Paget dans une archive qui date un peu, hein, il y a presque 40 ans, 1980. Suzanne Paget qui parle de la manière dont il faut agiter, déranger l'espace du musée, notamment en ayant en tête ou dans le corps l'espace de l'atelier. Ils ont ressemblé à quoi, vos différents ateliers, Neely Alter?
Écoutez, déjà, je vais parler de Suzanne Paget. C'est la personne qui m'a donné ma première chance. C'est une personne très importante dans ma vie, dans mon travail. Et elle m'a exposé, elle m'a fait une exposition personnelle en 1973 à l'Arc, La tente de nomade. J'avais rien fait jusque-là en France. Je peignais, mais je ne montrais pas. Et elle est venue, elle m'a fait confiance et ça a été fantastique. Et cette tente, je l'ai fait dans un espace de 18 mètres carrés où j'habitais et je travaillais.
Alors, faut dire ce que c'est que cette tente, parce que c'est une œuvre extrêmement importante dans votre parcours. Est-ce que vous pouvez la décrire et surtout, d'où elle vous vient, cette tente-là?
Mais écoutez, juste avant cette tente, j'avais fait un travail très politique sur Denis Gezmich, qui était un des jeunes hommes engagés politiques qui en Turquie, et ils étaient trois et ils étaient condamnés à mort par le junte militaire, par l'État militaire, enfin l'État était un État militaire, et condamné et exécuté. Et j'étais à Istanbul à l'époque et j'ai suivi étape par étape les procès. J'ai fait un travail très conceptuel. C'était la première fois que je sortais de la peinture. Vous avez vu des peintures des années 60. Et que je rentrais, après 7 ans de réflexion, d'apprentissage à Paris, dans vraiment quelque chose de qu'on pouvait appeler conceptuel et une autre
forme d'art. Très différent.
Voilà, ouais. Absolument. Et je ne sais pas comment, j'avais peint un pot, pour ce travail qui est perdu maintenant, avec un rond. Donc de là, je suis allée, j'ai commencé à m'intéresser une tribu nomade, parce que je venais d'être très, avoir un ami qui s'appelait Bernard Dupaigne, il s'appelle toujours Bernard Dupaigne, ethnologue, directeur de laboratoire d'ethnologie de Musée de l'Homme. Donc, avec lui, on avait des discussions sur l'ethnologie. Moi, j'avais le désir de travailler avec la méthodologie d'un ethnologue ou d'un anthropologue. Et il m'a suivi, il m'a beaucoup aidé, il m'a donné l'adresse, enfin l'endroit où je pouvais trouver ces nomades. Il m'a donné des conseils. Donc, sur ces conseils, je suis allée trouver ces nomades en Anatolie et je fais ce travail. Je suis restée 2 jours avec eux. Et de là, comme j'ai vu que chaque femme, ce sont des tentes de femmes, elles construisent ces tentes rondes et c'est leur domaine. Et chaque femme dans sa tente me disait qu'elle avait un frère, un fils ou un mari ou un neveu qui était parti à la grande ville, habiter dans des bidonvilles. Et certaines sont parties directement en Allemagne en tant que travailleurs immigrés économiques. Donc je me suis dit, logiquement, le travail que je dois faire après, je ne veux pas continuer à faire des habitations comme ça, bon, des tentes. Ça doit être sur les immigrés, l'immigration de travailleurs économiques en France, en Allemagne, en Belgique, ce que j'ai fait. Voilà, ça a ouvert tout, enfin, pour moi.
On va évidemment passer à cette dimension de votre travail, Neely Alter, en écoutant un son de 1979.
Nous ici, bon, nous ne sommes pas des Français, il faut dire, parce qu'ils ne sont pas de notre pays, ne sont pas à l'aise. Pour nous, nous sommes en trop. Et enfin, un voisin va parler de ça, un voisin qui passe à côté de nous, il ne fait même pas bonjour, ni bonsoir, parce que nous ne sommes pas Français.
Mon sœur est meu, cabrito, querido. Dis qu'un. Ça que eu não chamo o lobo e se ele vier nós pegamos numa tranca.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Neely Alter, de quelle œuvre est tiré ce son-là, oui. Et peut-être aussi dire comment, justement, de cette œuvre importante exposée par Suzanne Paget
Non, c'est... par Georges Boudaï.
Oui, mais je veux dire la première, la tente nomade, qui vous permet de, voilà, d'aller tranquillement sur un travail consacré vraiment à l'immigration économique et au bidonville et à cette autre forme de déplacement de population et donc à ce film-là.
Déjà, ce travail était fait à Ris-Orangis avec des immigrés économiques, travailleurs immigrés économiques portugais. Parce que ils habitaient là-bas, une grande, grande colonie. En 1979, à la demande de maisons de culture de Ris-Orangis,
en région parisienne, donc.
En région parisienne. Et c'était Georges Boudaï, directeur de la Biennale de Paris, un homme très admirable, qui m'a demandé de faire ce travail. Donc, je suis allée. De toute façon, ces travaux-là, on les fait pas en frappant aux portes des gens. Vous devez travailler avec des associations. Donc, à chaque fois, j'ai travaillé avec des associations fondées par Gaillet, Pétec, qui va faire une conférence d'ailleurs à Macval, qui est sociologue et assistante sociale à l'époque pour les travailleurs turcs. Ou dans le cas de Ris-Orangis, c'était la municipalité. Donc, eux, déjà, ils choisissent les gens qui veulent bien, on les explique. Et j'y vais jamais en disant, je suis artiste, je vais faire une œuvre qui va être montrée au musée ou je sais pas quoi. Parce que ça m'intéresse pas. Et j'essaie de les faire venir au musée et j'ai réussi plusieurs fois. Donc, en effet, le Portugal est un pays important maintenant de l'Europe, en plein expansion. Mais à l'époque, ils étaient pas plus différents. Ils n'étaient pas perçus plus différemment que les Maghrébins ou les Turcs. C'est ça que je veux montrer dans ce travail. Mais maintenant, évidemment, je pense que c'est d'autres populations qui ont remplacé cette communauté portugaise.
Ce n'est pas la seule communauté que vous allez. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire interroger, côtoyer, Nili Alter? Vous y allez dans quelle sorte d'état? Quelles sont vos questions à ce moment-là?
Et la plupart du temps, c'est quand même les communautés turques, n'est-ce pas? Parce que on parle la langue, on se comprend mieux, et je peux travailler plus facilement avec les associations qui me mettent en contact. Mais il y a eu aussi, voilà, c'est la seule fois que j'ai fait un travail avec les Portugais. J'ai essayé de faire, j'en ai fait aussi avec des Maghrébins, mais uniquement en photo, parce que les prendre en vidéo, je ne pouvais pas le faire. Ils étaient pas tout à fait d'accord. Alors on peut pas faire ça quand la personne n'est pas tout à fait d'accord. Il y a quand même cette croyance dans l'islam qu'on prend pas l'image d'un être humain. Donc, vous allez dire pourquoi les Turcs, mais les Turcs, la Turquie est le seul pays laïque musulman dans le monde. Enfin, espérons qu'il va rester. Mais c'est pour ça que les Turcs, c'est autre chose. Ce contact se fait facilement. Encore qu'aujourd'hui, ça serait difficile.
Justement, à ce moment-là, qu'il s'agisse du travail de 1976, 1977 ou alors celui-ci du 1979, votre désir profond est de montrer un état des lieux ou déjà de fabriquer des archives qui nous permettent aujourd'hui, en se promenant au Macval de Vitry-sur-Seine, Nili Alter, d'avoir des documents sur la manière dont vivaient ces gens-là, ce qu'ils disaient, comment ils se pensaient, comment ils se racontaient, bien des années plus tard. Est-ce que vous vouliez constituer une mémoire? C'était pas votre question.
Attendez, c'est les deux. En fait, au départ, je suis une artiste. Ouais, il faut. Ouais. Mais je suis une artiste qui, il y en a eu beaucoup, qui travaille avec le parti documentaire des choses. Mais évidemment, j'étais consciente que j'ai commencé à constituer une archivage importante. Mais j'ai jamais pensé. Vous savez, la vidéo, c'est l'enfant pauvre de l'image. À l'époque, surtout, personne n'aurait montré ça à la télévision. Donc, je ne suis pas une documentaliste. Je ne fais pas des documentaires. Encore que ça peut être considéré comme des documents. comme des archives.
En tout cas, c'est certain que certaines de vos œuvres le sont.
Oui, mais par exemple...
Quand vous prenez des extraits de matière, d'une moquette ou d'un canapé, et que sur des grandes planches comme ça, vous allez dans le plus petit détail de la manière dont les gens vivent, certes, il y a une dimension artistique qui est non négligeable, non négociable, mais c'est aussi une archive folle d'intimité quand même.
C'est aussi de l'ethnologie et de l'anthropologie. J'ai beaucoup travaillé avec les outils des sciences humaines. Donc, j'ai côtoyé des ethnologues, des sociologues, des anthropologues. Ils m'ont appris la méthodologie. Donc, je les ai utilisés comme une évolution dans le travail, c'est pas le matériau, ce n'est pas le média, mais c'est autre chose. Mais c'est plus proche de ça que de vouloir faire un archivage. Mais c'est maintenant, à l'âge de presque 82 ans, que je me rends compte que c'est une gigantesque archivage, en fait. Et ça m'a été révélé encore plus avec beaucoup d'évidence dans l'expo de McVall.
Pourquoi là-bas?
Parce qu'ils en ont mis beaucoup. Et si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'archives, carrément des archives, sur mon travail.
En dehors des œuvres, vous voulez dire.
Oui, voilà. Alors donc, ils en ont mis énormément dans des vitrines et je n'étais pas tout à fait pour au début, mais je trouve que c'est très bien.
Peut-être que c'est d'autant plus parlant que le McVall tient, c'est un musée qui tient beaucoup au dialogue qu'il peut entretenir avec le territoire qui est immédiat, que cette banlieue de Vitry-sur-Seine est une banlieue qui a été très politisée, elle est probablement encore, mais surtout dont la population est composée de personnes venues de plein de pays différents, et que du coup, ça donne une dimension frappante, émouvante de voir toutes ces archives qui ont 50 ans, et qui parlent de choses qui sont différentes, mais dont les échos sont extraordinaires avec les temps que nous traversons, Nelly Alter.
Oui, mais... Oui, 50 ans, c'est plutôt les peintures. Disons 47 ans, 46 ans, ouais, voilà. Mais c'est pas loin. Bon.
Oui, vous êtes quelqu'un de précis.
Oui.
On va écouter quelqu'un.
Je suis bien obligée.
Mais oui, vous avez raison. On va écouter une artiste parler des années 60. Elle s'appelle Esther Ferrer.
Les années 60, c'est aussi le mouvement de libération des femmes. Ça veut dire notre corps nous appartient. Bon, pendant des siècles, des millénaires, l'art avait écoulé à travers les corps de la femme tous les fantasmes, tous les horreurs masculins. Et dans un moment donné, la femme, on a décidé que notre corps nous appartient et qu'on va véhiculer, nous les artistes, mais beaucoup d'autres professionnels, bon, on va véhiculer notre discours, nos propres idées sur tout ce qui nous concerne. Donc, beaucoup de femmes, à l'époque, artistes, mais pas tout seul, pas du tout, beaucoup, dans beaucoup de pays, on a utilisé ce corps comme support de son travail et véhiculé à travers elle nos idées féministes. Et il avait tous les stéréotypes sur la beauté féminine. Il fallait mesurer, je sais pas combien, d'avoir la poitrine, je sais pas comment, et tout ça. Moi, je correspondais absolument pas du tout à tout ça, loin de là. Donc, j'ai décidé que malgré que je ne correspondais pas, et juste peut-être parce que je ne correspondais pas à cette mesure, j'allais montrer mon corps et dire exactement les mesures. Voilà, ça c'était une première idée. Et j'ai commencé à le faire tout seul, à poil. Mais habillé au poil, parce qu'il n'a aucune importance, c'est l'histoire des nuits. Mais dans un moment donné, j'ai décidé que dans toute la publicité, partout, il avait toujours la femme à poil et l'homme habillé. Alors j'ai décidé de faire une autre version de cette performance où je suis habillé et l'homme il est à poil et je mesure le corps de l'homme, les sissis compris. En érection au pas.
2017, Esther Ferrer en pleine forme au micro de Laurent Goumard sur France Inter dans le nouveau rendez-vous qui parle des années 60 comme un moment où les artistes femmes commencent à porter, et peut-être les femmes citoyennes aussi, un discours sur leur propre corps et ne se satisfont plus du discours qui est porté par les hommes, par l'extérieur, par la société sur le corps qu'elles ont. Nelly Alter, évidemment, quand on parcours tout le travail qui est montré en ce moment au McVall, on se dit que la question du corps des femmes, mais aussi de votre corps, est une question qui a été toujours très importante pour vous.
Mais je ne suis pas la seule. Esther, c'est une grande amie. Et c'est plutôt dans les débuts des années 60, il se passait rien. Encore une femme était obligée de demander à son mari ou à son père pour avoir un carnet de chèques, pour voyager. Quand je suis arrivée en 65 à Paris, c'était comme ça. Moi, je n'étais pas obligée parce que j'étais nationalité turque. Bon, les Turcs étaient plus avancés. On a eu le droit de vote bien avant les Français.
Alors, en arrivant à Paris en 65, vous avez l'impression de reculer dans votre condition féminine ?
Absolument, totalement, et je suis choquée. Mais il y a eu 68. C'était un mouvement d'hommes. 68, c'était même presque assez macho. Et les petites amies amenaient le café. Alors, les hommes sont furieux quand je dis ça aujourd'hui, mais c'est la vérité, je les ai vécues ces années. Le 68, j'ai vécu à Paris.
Du sexisme dans le militantisme ?
Mais vraiment, pas vraiment un sexisme volontaire, mais c'était comme ça. On pouvait pas passer de rien à beaucoup de choses. Mais c'est 68 qui nous a permis aux femmes, nous, femmes, artistes surtout. On était invisibles. Femmes artistes, connaît pas. Et c'est, ça nous a permis de prendre conscience. D'ailleurs, en 70 a commencé les mouvements féministes tout court. Nous aussi, on a commencé à faire des groupements comme cette groupe qu'on a fait avec Esther et Mathilde Ferrer. Les femmes en lutte avec Dorothée Sells. On était un groupe de réflexion. Alors le travail d'Esther et de sa sœur Mathilde, et chaque fois qu'on se réunissait dans l'atelier de l'un ou de l'autre, c'était de voir dans le mois qui avait écoulé. Et les lieux culturels, combien de femmes avaient été exposées par rapport aux hommes? C'était toujours le même pourcentage, à peu près zéro, voilà, vous voyez. Donc, tout ça, ça commence en fait en 70, mais c'est le résultat, elle a raison, c'est les années 60, donc 68. C'est le résultat de cette période. Mais parce que aux États-Unis, ils étaient plus avancés, même en Allemagne, même en Angleterre. Mais la France restait très dure.
Je pense à une vidéo qui arrive aussi assez rapidement dans l'exposition, après qu'on a vu donc ce grand mur d'images en noir et blanc, mais aussi ce portrait de vous, Nili Alter. C'est une vidéo qui s'appelle « Le corps vieillissant de l'artiste » et où, avec vos mains, on peut imaginer plein de choses, un vagin, un sexe de femme ou des mains, selon qu'on a plus ou moins d'imagination. C'est une vidéo que vous avez fait dans quel état d'esprit ?
C'est une vidéo, les images sont de la vidéo, de la photo, mais c'est des roms interactifs qui commençaient à bourgeonner en France en 96.
Esthétique extrêmement importante, c'est des roms.
Et donc, vous faites de l'interactivité. C'est vous qui faites les images, vous changez les images, le public. Je l'ai fait en 2003. Parce que j'enseignais cette pratique pendant X temps. Je faisais un workshop. Il n'y a pas le français pour le workshop.
Ouais, des ateliers, on dit. Ouais, c'est pas ça.
C'est pas la même chose. Espace Landowski en Boulogne-Billancourt. Parce qu'il y avait un grand espace et une grande volonté, je ne sais pas pourquoi. C'est le musée des années 30, de l'interactivité, de l'ordinateur, images de synthèse avec des élèves, des jeunes, des retraités. Donc je leur apprenais à faire ce travail-là avec beaucoup de possibilités d'équipement que moi-même je n'avais pas chez moi. Bon, j'avais mais pas autant. Donc mais ils ont voulu faire une expo avec moi, c'est pour cette exposition que j'ai fait ce travail. Mais je l'ai fait chez moi, attendez, c'est pas du tout... Tout ça, c'est fait maison, hein. Toutes ces vidéos. Enfin, je parle pas des immigrés, mais tout ce qui est fait avec moi-même, où il y a mon corps, question de mon corps, comme le harem, la femme sans tête... Ou le corps de...
Enfin, le corps vieillissant.
Non, ça s'appelle Skin Story, l'histoire de peau.
Vous diriez que c'est un outil comme un autre, votre corps à vous, Nili Alter ?
Je pense que absolument, mais pour chaque être humain, le corps est la peau, surtout la peau. qui est agressé par les maladies, par l'écologie, par le temps. Enfin, c'est un outil qu'on peut utiliser intelligemment ou qu'on peut se autodétruire. Enfin, c'est évidemment.
Quand
moi,
vous parlez
de la peau, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Quand vous parlez de la peau, je pense aussi à une œuvre d'art qui parle de la lapidation et où on voit votre dos, là aussi, grâce à des technologies qu'on imagine liées à ces premiers CD-ROM, à ces premiers logiciels. Et donc, il y a deux fois votre dos avec des pierres que vous placez directement sur votre dos ou bien des pierres qui vous arrivent par image de synthèse. Voilà. Là encore, la peau, elle dit notre grande vulnérabilité, pas seulement la vôtre d'ailleurs. Votre peau, c'est notre peau, c'est la peau surtout des femmes qui sont violentées, Niliator.
Oui, mais ce travail m'a été inspiré par une image que j'ai vue sur Internet sur lapidation. Vous mettez dans Google lapidation, vous voyez des horreurs, vous savez, à l'époque. C'est-à-dire une jeune femme, très jeune femme irakienne. Je crois que ça se passe à Bagdad. Elle est sunnite, elle est chiite, je crois, ou vice-versa. Et elle ose sortir avec un sunnite. Enfin, elle lie amitié avec un garçon sunnite. Et on lapide. Elle est lapidée. Et on voit cette image, c'est très furtive. C'est les hommes qui l'ont tuée et qui l'ont filmée avec un iPhone, en même temps, qui met ces images sur Internet, en disant « Regardez ce qu'on fait aux infidèles, aux femmes non obéissants, ou je ne sais pas, à tout le monde. C'est une menace épouvantable, une menace épouvantable. » Ça veut dire, très furtivement, on voit cette jeune femme avec une jupe ensanglantée par terre qui essaie de se sauver, mais elle n'y arrive pas. Et on voit les hommes dans une main avec un caillou, ils jettent sur sa tête, on voit le sang couler. Et dans l'autre main, il y a les iPhones qui filment la scène. Et ils osent mettre ça sur Internet. De toute façon, soit un groupe de gens qui surveillent l'Internet international les enlève tout de suite, une semaine après, soit c'est le pays même en question qui l'enlève. Donc moi, j'ai filmé ces images-là. Mmh. Moi, je fais tout un travail maintenant depuis des années 2010.
Où vous refilmez des images qui sont...
Oui, qui sont déjà là et qui disparaissent. Mais ce sont des images qui sont gratuites. Enfin, c'est des images totalement amateurs, mauvaise qualité, mais je travaille là-dessus. Donc, c'est cette image qui m'a tellement choquée. Mais c'est bouleversant, si vous voyez, ça dure 10-15 secondes, hein. Et je l'ai mis dans lapidation, cette image. Voilà, mais c'est terrible, quoi, voilà. Et vous mettez la même chose, vous mettez le mot niqab, vous allez tomber sur beaucoup, beaucoup d'images que les femmes ont filmées eux-mêmes. Il y a une vidéo aussi, comme ça, mon plus récent travail. Elle est obligée de... Elle a fui la Syrie, mais elle est obligée de se voiler de nouveau parce qu'elle doit retourner à son village parce qu'il y a un problème avec sa famille. Alors elle se filme, elle se fait filmer par une copine en disant « je suis obligée de le mettre, et on ne sait pas si elle est revenue ». Alors ces femmes-là, elles se filment entre eux. On voit une avec une caméra qu'elle sort de son niqab. Et c'est comme, ce sont des images comme des messages d'angoisse ou qu'on jette à la mer, quoi. Alors on les voit aussi très peu de temps. Vous ne trouvez pas les mêmes images une semaine après.
On va justement écouter un reportage qui avait été diffusé dans l'émission Culture d'Islam, un reportage où des femmes qui portent le niqab témoignent, puisqu'il faut dire quand même, Neil Yalter, que parmi toutes les œuvres qu'on peut voir en ce moment au Magval, une œuvre récente prend ce sujet-là comme matrice.
Moi j'avais mis des œufs et de l'huile sur mes cheveux. C'était un masque.
Attends, mais regarde là.
Attends, tu vois, le lendemain, je l'ai mis, en fait, pour sortir avec lui, il m'a dit, viens, franchement, c'est bien et tout. Je suis partie avec lui. On est parti pour se balader et tout. Et j'avais pas le temps de laver mes cheveux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est mettre un sachet sur mes cheveux, je me rappelle, et j'ai mis le foulard. Le lendemain, pour aller à Nkra et pour aller travailler, je me suis trouvée bien. Je me suis sentie bien, mieux que sans le foulard. Je me suis sentie bien. Après, ça y est. Je ne pouvais plus sortir sans foulard. C'était ça où, même s'ils m'ont dit au travail, le Kangaloli, changer, on l'a le Kangaloli.
Mais toi, pourquoi tu as mis le foulard, Fétiha?
C'est parce que la religion nous la pose. Sinon, je ne mettrais pas de foulard. C'est pas une question d'habitude. Je me sens bien. Je vais pas dire que je me sens mieux avec foulard, mais je ne me sens pas bien sans foulard. Tu vois, ça me dérange parce que je le porte et que du coup, je suis un petit peu en contradiction avec le fait de le porter puis de pas le porter, mais je me sens pas mal à l'aise sans foulard. Je me sens pas mal à l'aise.
Dehors, tu te sentirais mal à l'aise.
Alors, je
vais te dire moi.
Parce que t'as pris l'habitude de le
porter. C'est la religion qu'elle dit. Mais c'est tout. Écoute ce qu'elle dit. Moi, pourquoi je l'ai porté? Moi, j'ai une crise d'identité. J'ai eu une crise d'identité. Ne ressemblant pas à une arabe et ressemblant à une française, cette crise m'a fait très mal. En tout cas, en sachant mon histoire, que mes parents sont divorcés, j'ai jamais connu mon père, il y a eu toujours ce petit doute quelque part. Et je l'ai porté, première chose, pour une crise d'identité. Mais par la suite, je l'ai porté par conviction.
C'est Voix de femme diffusée en 2016 sur France Culture parlant du niqab. Et ce niqab qui donne Neil Yalter une partie du titre d'une des dernières œuvres, c'est la plus récente, n'est-ce pas, Niqab Blues?
Oui.
Qui est exposée en ce moment au Macval, et qui est une sorte d'œuvre kaléidoscopique, cette fois très plastique, où il y a du tissu. C'est vraiment une grande sculpture, je ne sais pas comment vous la décririez, vous.
Oui, je dirais une sculpture, oui. Relief mural.
Exactement.
Voilà. Mais attention, tout ce dernier travail, surtout les deux vidéos qui se mettent en même temps avec les mots, que j'avais fait une performance avec ces mots-là, en trois langues, moi, je ne fais pas une critique. C'est un travail artistique, mais c'est un travail de constat. Après, c'est à chacun de l'interpréter comme il l'entend. Je ne pense pas que je fais une intervention qui critique directement. Encore que je suis contre le foulard, moi personnellement, mais c'est mon droit.
Mais c'est pas du tout quelque chose qui apparaît nécessairement dans cette œuvre-là.
Mais c'est plutôt ce côté de l'enfermement, parce que je travaille sur l'enfermement de toute façon depuis le début. Même la tente de nomade, la femme n'a pas le droit de sortir de sa tente. C'est l'extérieur, c'est aux hommes. Donc je travaille sur cet enfermement depuis le début. Donc c'est plutôt l'enfermement d'un corps dans un tissu noir. La plus petite nano créature sur Terre et le cosmos, la matière noire. Enfin, j'ai fait tout un travail aussi qui se relie à cette petite matière noire comme ça qui enferme les gens. Et on est aussi dans un univers, on a découvert un deuxième univers, il paraît, c'est hallucinant. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à réduire un corps, c'est toujours le corps, la peau, avec un pot noir, à chaque individu, à chaque femme? Mais après, si elles veulent, elles le font. Ça c'est pas à moi de juger.
Oui, puis c'est une autre question. C'est pas tant la question que soulève votre œuvre, Neil Yalter, mais est-ce que vous, c'est un enfermement que vous avez ressenti? Est-ce que c'est un enfermement que vous avez ressenti en tant que femme, en tant que femme artiste, en tant que personne ayant quitté son pays? Est-ce que c'est un enfermement qui est aussi un vécu personnel?
J'ai senti à un moment donné un enfermement dans le milieu de l'art en Europe. Enfin, quand je suis partie d'Istanbul, parce que étrangement, en 1965, de 60 à 65, j'exposais mes peintures et puis j'étais parmi une petite groupe d'artistes femmes, d'artistes hommes et femmes, mais il y avait rien à Istanbul, il y avait pas de musée, il y avait pas de galerie, on était une toute petite nombre de gens qui hommes et femmes, et il y avait pas de différence entre hommes et femmes. Donc c'est en arrivant à Paris, en effet, j'ai senti un enfermement dans une étiquette femme artiste déjà. et ensuite femme artiste turque, par la suite. On m'enfermait dans des étiquettes comme ça, donc... Mais écoutez, regardez l'évolution. Personne exposait dans le monde un artiste indien, un artiste Moyen-Orient, un artiste chinois. Maintenant, ils ont tout le milieu, tout le marché de l'art est rempli des artistes chinois. Il n'y en avait pas. L'art contemporain, l'art tout court, était européen et américain. Basta. Un petit peu australien, peut-être. Je ne sais pas.
Et alors, comment ça s'est fissuré? Comment est-ce que vous avez pu retirer ces différentes étiquettes?
On a lutté beaucoup, vous savez. On a lutté beaucoup, pas seulement nous. Il y avait beaucoup de directrices de musées, de galeries, non, peut-être des femmes. Tout le monde a lutté. On s'est rendu compte que, quand même, la moitié de la population de la Terre était femme, était féminin. Et comment est-ce qu'on pouvait dire, eux, ils sont bons pour faire la cuisine et faire des enfants? C'est pas possible. Ça allait éclater un jour.
Et alors, ça a éclaté, selon vous?
Oui, non, oui, quand même. Non, il faut pas exagérer. Non, il y a eu beaucoup d'évolution, quand même. Il y a eu beaucoup d'évolution. Depuis les années 60 à maintenant, oui. Un peu moins en France. Je trouve qu'en France, c'est un petit peu lent. Et puis, il y a des régressions en France, beaucoup plus grandes que dans d'autres pays. Cela dit, quand on parle du féminisme, de la régression ou de la progression, on pense toujours à un monde occidental. Il y a toute l'Arabie Saoudite, il y a tous les pays où les femmes sont encore dans le même pire que dans l'état où on était, nous, en Europe, dans les années 50.
Est-ce que l'art, pour vous, Nielalter, c'est un endroit de lutte sur ces questions-là, ou sur les autres questions, de questions politiques, de rapport à l'exil, questions du rapport à l'autre, du rapport à l'étranger, questions de précarité? Est-ce que pour vous, produire des œuvres artistiques, sans ne jamais rien céder sur la dimension artistique, vous permet de lutter?
Ah, pour moi, oui, mais... Vous savez, maintenant, je vois, il y a toute une jeune génération d'artistes. C'est pour ça que on vient me voir de partout, parce que j'ai commencé ça très tôt. Mais quand je les ai fait, toutes ces œuvres, tous ces travaux, on disait, tout art est politique. Ça, c'était une bonne échappatoire, voilà. Où on disait, l'art ne doit pas être politique. L'art, c'est pour l'art. L'art pour l'art. Et c'était très confus. C'était très confus. Mais c'est déjà dans les années 60, c'était politique quand ça voulait être politique. Enfin, mais ça n'empêche pas. Je trouve qu'il y a des très grands peintres, des très grands artistes qui ont fait de l'art minimal. Déjà l'art conceptuel est politique, mais l'art minimal américain, des grands artistes comme femmes déjà. Mais à un moment donné, quand ils sont très très forts, ils vont très loin dans la pensée, ça devient politique.
C'est marrant.
Donc
parce
peut-être que tout art est politique.
Ah, finalement.
Mais
c'est pas. Mais c'est pas une porte de sortie. Mais c'est marrant parce que finalement, on n'a pas du tout parlé de la peinture, Nielalter, alors que d'une part, c'est un début extrêmement important pour vous, et que c'est certainement un lieu fondateur, même si d'un point de vue formel, d'un point de vue conceptuel, vous faites des choses très différentes. Ça a eu quoi comme importance dans votre parcours, la peinture?
Eh bien, parce que j'ai commencé en tant que peintre. J'avais 5 ans quand je commençais à dessiner, donc...
Enseignée par?
Par ma grand-mère, paternelle. Elle dessinait très bien. Et elle était à moitié voilée et elle faisait 5 prières par jour. C'est 5 prières par jour.
Elle était pieuse alors?
Elle était très, très avancée, très moderne, mais pieuse, oui. Oui, c'était une femme de l'Empire. Donc... On ne pouvait pas imaginer autre chose hein, de l'Empire ottoman. Mais si je commençais, je peignais toujours, je peignais tout le temps, mais j'ai fait du pantomime, j'ai fait du théâtre. Je voyais, déjà très jeune, je voyais un art complet. On pouvait utiliser tous les médias comme ça, dans mes rêves, parce qu'il n'y avait strictement rien dans cette ville où je vivais. Donc, j'ai eu une période de peintre presque professionnel entre 60 et 65. je faisais des peintures. Mais comme j'ai dit, il n'y avait rien, il n'y avait pas des livres non plus. On avait un livre de Michel Sefort qui s'appelle toujours le dictionnaire de l'art abstrait. Et on se passait ce livre les uns aux autres. Et je copiais un petit peu des Polyakov, des choses comme ça. Bon, j'étais influencée par... Istanbul, c'est quand même Byzance. N'oublions pas ça. C'est Byzance, c'est la culture byzantine, l'art byzantin. Il y a beaucoup d'orures, beaucoup de... Donc je mélangeais les deux un petit peu. Ça marchait bien. Mais quand je suis arrivée ici, en 65, je suis tombée des nues. J'ai eu un choc. Je ne connaissais pas l'art américain, je ne connaissais pas le pop art, l'art conceptuel. Alors j'ai eu la chance de découvrir la galerie américaine Iliana Sona à Bentru Mazarin, au début quai des Grands Augustins. Et j'ai tout appris. Et cet apprentissage a pris 7 ans. Et pendant cet apprentissage, j'ai fait ces séries de tableaux que j'appelle des tensions, des circulaires, tensions circulaires. Et il y a surtout en 68, avec les événements de 68, je sentais cette tension. J'en ai fait une grande partie de ces peintures cette année-là. Donc on sent une tension, mais c'est de la peinture plus influencée par un constructivisme soviétique que j'aimais énormément déjà, que vraiment de l'art contemporain. Mais apparemment, ils sont encore très fraîches, paraît-il. moi, je les aime bien. Mais...
Vous êtes loin maintenant? Vous vous sentez loin de la peinture?
Ah non, j'ai toujours peint. Hein. J'ai l'attente, il y a de la peinture sur les peaux. Toujours les ronds.
Mais aujourd'hui
Mais si, il y a une pièce de 2004, 2005, s'appelle, avec la vidéo Sound of Painting, le son de la peinture, où je fais une performance et la peinture est sur le mur. Ça, je les ai fait une série comme ça, Et puis, Pixelismus, qui est un hommage à Malevitch. Si, je peins de temps en temps. Tout d'un coup, ça me prend et je peins. Mais je ne me considère pas peintre, avec le grand P.
Mais cependant, artiste. Merci beaucoup, Neil Yelter. En ce moment, on peut voir cette exposition Transhumant jusqu'au 9 février 2020 au musée Macval à Vitry-sur-Seine. Il y a aussi l'édition d'un catalogue.
Kervan yolda, ay altında. Kervan yolda, rüzgarlarda. Kervan yolda, ay altında. Kervan yolda, rüzgarlarda. Sazımın telleri.
Charlotte Roux était à la réalisation ce soir à la prise de son. Jérémy Kaufmann, Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor et Lucie Riandet. C'est aussi une page internet Par les temps qui courent, franceculture.fr et le podcast via les applications. 22h sur France Culture. Très belle soirée.
Her şey uzak, eğri saplı kaşık. Konduktan sonra bir köprü var. Başında bir kadın var. Ağırlık var sırtında. Döner dönmez. Sabah yola koyulalım. Uyuyakaldım. Değiştirmek ister misin geleceği ve geçmişi? Bakamıyorum gördüklerime. Saplandım bir kördüğüme. Kulağımda ince sızı. Karanlıkta saat kırmızı. Kervan yolda, rüzgarlarda.
geldim ayolda. Arabamın köşesi vurup sazımın bir teli kopuk. Dön, gel. Var mı kavuşmak gibi bir kuşluk vakti? Kervan yolu.